I got glue in the toilet, put out the pipe, put it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit, peut pas m'engarder, pas m'engarder.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite souche a perdu une belle plume de haut.
Pas m'engarder, pas m'engarder.
Mais si l'amour prend la racine.
Elle est pas mal.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'écho du parquet.
Bonjour, écho du parquet numéro 24.
Numéro 24 qui est consacré cette semaine. Alors comme d'habitude, des chroniques, des nouveautés ou pas, des découvertes, enfin vous verrez. Et puis une interview du groupe Bosc, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Vous pouvez nous écouter sur Fréquence 7, Radio Méga, Radio Saint-Féréol ou sur notre audioblog Arte Radio si vous êtes à la maison.
Voilà, et on va commencer tout de suite cette 24e édition avec un quartet breton qui nous vient de la région de Rennes-Redon et qui existe depuis à peu près un an et demi. Un groupe qui est composé à la clarinette et clarinette basse de Gwen Danigo, accordéon diatonique et Louan Lebras, contrebasse Mathias Legal, violon et chanteur principal Mathéo Bloyer. Quant à son nom, voici ce que le groupe en dit dans sa propre présentation qu'il nous a envoyée. Le groupe s'appelle La Rive. Voilà, le groupe c'est La Rive.
En deux mots ?
En deux mots, voilà.
Ou
en deux mots.
La Rive, le groupe.
Ouais. Non, La Rive. Pour un petit écho aux nombreux fleuves et rivières du coin de chez Mathéo, du côté de Redon, avec l'idée de quelque chose d'évocateur de notre musique. La Rive comme dernière étape avant de se laisser emporter, quelque chose de plutôt doux qui coulerait de source d'une certaine façon. Voilà, ces musiciens sont issus des écoles supérieures de musique de Rennes, que ce soit le conservatoire ou une école de spectacle vivant qui a l'air assez célèbre à Rennes qui s'appelle le Pont Supérieur. Et le groupe mène un travail sur le timbre des instruments qui m'a l'air d'être un peu quand même dans l'esprit des scènes de musique actuelle. Il y a beaucoup de croisements musique actuelle trad, on verra avec Bosc, tout en proposant un répertoire qui est typiquement un répertoire de bal fèche-nose pour danser, parce que, disent-ils, c'est l'univers dans lequel ils ont baigné, dans lequel ils se sont rencontrés. Donc après un an et demi de travail, ils commencent à animer des bals depuis le printemps dernier. Avis aux amateurs qui trouveront le contact du groupe sur notre audioblog en description de cette émission. On les a un peu entendus il n'y a pas longtemps sur la scène découverte de la Bogue d'Or de Redon et on peut confirmer la grande maîtrise de ces instrumentistes dont on sent qu'ils ont bossé effectivement et dont la musique pourra intéresser sans doute au-delà du cercle des danseurs. En tout cas, nous, on a vraiment beaucoup aimé. Voici par exemple un rond de Saint-Vincent qui a été enregistré en mode un peu fait maison cet été, mais
oui,
avec
alors,
un
puisqu'il y a...
bon son.
Il n'y a, voilà, a pas d'album encore disponible.
Non, voilà.
Pour l'instant, les enregistrements disponibles, c'est Production Maison.
Voilà, Production Maison qui nous a envoyé pour se faire connaître, un peu en mode carte de visite. Donc, on est content de vous proposer cette carte de visite de Rive avant que vous les découvriez en bal ou en album. Et voici donc leur rond de Saint-Vincent.
Trois jeunes gars de mon village sont venus m'y faire l'amour, là sont venus m'y faire l'amour. Ma mère se mit en colère, les a tous trois envoyés. Je n'osais pas lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie. Ma mère se mit en colère, les a tous trois renvoyés, là, les a tous trois renvoyés. Je montais dans ma chambre et je me suis mis à pleurer. Je n'osais pas lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie. Je montais dedans ma chambre, je me suis mis à pleurer, là je me suis mis à pleurer. Mais ma petite, ça te va tant vite les rappeler. Je n'osais pas lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie.
Et toi donc petite, ça te va, t'en vite les rappeleux là-bas, t'en vite les rappeleux. Je m'encarte sur une pierre et je me suis mis à crier. Je n'osais pas lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie. Je m'encarte sur une pierre et je me suis mis à crier. Là je me suis mis à crier. C'est le plus jeune de la bande qui est revenu le premier. Je n'osais pas la lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie. C'est le plus jeune de la bande qui est revenu le premier. Là qui est revenu le premier. Embrasse ma mère la première et Mike par-dessus le marché. Je n'osais pas lui dire oui, pourtant j'en avais grand envie. Embrasse ma mère la première et Mike par-dessus le marché.
J'aime bien, alors moi l'écho du parquet, j'aime bien. Alors ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que ça met le feu, mais alors là, ça met le feu au parquet. Hein. Alors là, vraiment, et puis j'aime bien.
Albos d'anglars, yon en claro fonteno. Albos d'anglars, yon en claro fonteno. Zahano doime. Ibo kere delayo, zahano doime, ibo kere delayo, lufil del rey, sullo la rincontrado.
Ma
maitos.
Alors, on vient d'écouter le groupe Bosque avec le morceau Al Bosque d'Englars. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas du tout demandé ce que signifiait Bosque. C'est probablement de l'occitan, mais bon, voilà, vous ne découvrirez pas ça dans l'interview qui vient. Mais un tas d'autres informations.
Il y aura d'autres choses quand même, non?
A priori, vous découvrirez quand même d'autres choses. Mais pas la signification de Bosque qu'on trouve peut-être sur un traducteur. Débrouillez-vous. Donc, Bosque, c'est un groupe qui sort son album en vinyle. Il l'a sorti le 1er novembre. Donc, un vinyle qui est coproduit par les labels Pagans, Animal Biscuit et Permafrost. L'album lui-même est sorti en mai 2024 et on vous laisse donc en compagnie d'une partie des membres du groupe.
Moi, je m'appelle Elisa Trébouville. Je joue du banjo dans Bosque et des fifres et aussi du requinto. C'est un instrument mexicain, un luth mexicain. Comment je suis venue à la musique? J'ai commencé la musique quand j'étais enfant. Non, j'ai commencé par la guitare classique et puis après j'ai fait du jazz, beaucoup de musique populaire brésilienne. Et puis, j'ai étudié différents trucs et puis je suis arrivée j'ai découvert un peu les musiques traditionnelles du domaine français et occitan il y a une dizaine d'années, on va dire. Voilà.
Moi, je m'appelle Mathilde Spini. Là, je joue de la cabrette et de la boue dans Bosque. Et moi, j'ai commencé la musique, j'avais 21 ans. Je venais pas du tout de ce milieu-là. J'ai eu un coup de cœur pour le timbre de l'instrument dans une manif sur la loi sur les universités.
La boue, il y avait de la boue.
Il y avait de la cornemuse 16 pouces. J'ai commencé par la 16 pouces. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de timbres de plus en plus ruraux.
Ok, si tu entends par ruraux.
Non, mais j'ai commencé par. Je connaissais pas du tout cette musique, donc j'ai commencé par du folk et des musiques très tempérées. Et puis plus ça avançait, plus j'ai découvert qu'il y avait des cornemuses plus attachées à des terroirs, avec des tempéraments particuliers, des répertoires aussi plus spécifiques.
Moi, je m'appelle Anaëlle Marsollier. Dans Bosque, je m'occupe de la partie sonorisation. Et j'ai rencontré vraiment les musiques traditionnelles avec ce projet-là, avec ce groupe.
Moi, je m'appelle Lisa Langlois Garrigue. Dans Bosque, je chante et je joue du tambourin à cordes, tuntun. La musique, je viens d'une famille où ça chante beaucoup, où ça écrit beaucoup. Voilà. Après, j'étais pas rattachée à un milieu traditionnel, pas du tout. Ça a été une découverte plus tardive en Bretagne.
Bosque, c'est un groupe de 5 musiciennes et une sonorisatrice. Donc là, on est 3 musiciennes, il manque Marthe Touré et Noélie Nioulou qui jouent toutes les deux du violon. Et Noélie joue aussi de la viole de gambe. Dans Bosque, tout le monde chante. Alors, d'où ça vient, la genèse, c'est que Lisa et moi, Elisa, on avait envie de faire de la musique ensemble. On n'arrivait pas forcément à trouver l'endroit qui comment. Et puis, on s'est dit, ah, ça serait super de jouer avec telle personne. Juste, on a fait un espèce de tour d'horizon des personnes avec qui on avait envie de jouer. Et puis, il se trouve que c'était ces personnes-là. On leur a proposé, on leur a dit qu'on avait envie de faire de la musique du répertoire du Massif Central, le Sud Massif Central. Donc là, on joue des morceaux issus de collectage du Lot, d'Aveyron du sud du Cantal, à plus ou moins quoi, cette ère-là. On savait pas trop ce qu'on allait faire à la base, on savait pas si on voulait faire un bal, un concert, ça s'est affiné vraiment au fil du temps. Et puis, en fait, assez rapidement, dès la première résidence, tout le monde est arrivé avec ses envies, et puis l'envie de faire un concert était assez partagée, je crois. J'ai l'impression, c'était marrant parce qu'on se connaissait pas toutes bien, enfin Lisa et moi, on connaissait chaque personne individuellement. On les a mis ensemble, mais il y a des personnes qui se connaissaient pas du tout, genre Mathilde et Noélie, par exemple, elles se connaissaient pas. Et donc on savait pas trop ce que ça allait faire, mais au final il y a eu un faisceau d'intérêt assez fort sur ce répertoire-là, et puis aussi sur une manière de composer de la musique. On a eu très envie de composer collectivement la musique, j'ai l'impression qu'il y a eu une envie de chercher des choses qu'on avait chacune un peu en tête sur le timbre, le tempérament, les masses d'orchestre, parce qu'on est 5 et on a plein d'instruments différents, donc on peut vraiment on a une espèce de variété comme ça de timbres dans le concert, et je crois qu'il y a eu cette envie là de vraiment chercher autour de ça. Moi, par exemple, sur les cornemuses, enfin Mathilde elle dira mieux que moi, mais elle utilise plein de modes de jeu différents, pas du tout que le jeu de mélodie, enfin voilà, tout le monde a un petit peu cherché des choses comme ça. Et puis Annelle est arrivée assez tôt dans le projet aussi, dès la deuxième résidence elle nous a beaucoup aidé à affiner tout ça, puis à mettre la musique dans un écrin de son.
La sonorisation fait vraiment partie intégrante du groupe, et comment c'est quoi ton rôle en fait, enfin, c'est un peu bête comme question, mais...
J'ai l'impression que ça se situe à plusieurs étages. Le premier étage, ça a été de travailler sur l'amplification des instruments sur des amplis, donc sans déjà voilà, sans parler de micro et tout ça, mais déjà de réfléchir à comment faire passer des instruments qui sont à la base pas tous faits pour être joués sur ampli. Donc il y a eu un travail de recherche sur les sonorités des amplis, quel timbre, qu'est-ce qu'on voulait apporter avec les amplis, que ce soit pas juste des instruments plus forts, mais vraiment d'apporter un grain supplémentaire, notamment sur les violons. Donc ça a été un premier étage de travail. Et après, le deuxième étage de sonorisation, il est un peu plus classique, entre guillemets, c'est de restituer un son assez proche de l'acoustique, mais en version sonorisée. Et voilà, donc là, on a fait du travail un peu sur les voix, sur le son des voix, et puis retranscrire la patte acoustique du groupe.
Okay.
Mais je pense que le fait d'avoir travaillé très tôt en résidence avec la sonorisation, ça les a aidés peut-être aussi à construire la musique avec cet outil-là en plus, ce qui permettait des équilibres dynamiques qui sont pas forcément possibles en acoustique entre les différents instruments. Voilà, c'était plus un outil supplémentaire dans l'écriture musicale. Mais...
Oui, du Massif Central, là, on part d'un répertoire de collectage sur lequel on s'est basé. On aurait pu en faire une musique qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est vrai que ça dit rien de la direction dans laquelle on est allé. C'est assez difficile de mettre des mots sur cette direction, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé collectivement un endroit de sensibilité qui nous travaille et sur lequel on avance ensemble et sur lequel
on trouve le public, quoi. Il y a un endroit où cette musique, j'ai l'impression qu'elle est capable de donner à la fois une espèce de sentiment d'allégresse hyper fort et en même temps de faire pleurer. Parce qu'on sait. C'est un truc d'équilibrisme un peu, c'est-à-dire on a une puissance possible parce qu'on est toutes des musiciennes de bal et qu'on sait qu'on a cette capacité d'envoyer du gros son et que cette musique, elle est capable de lancer le corps, quoi, dans la danse. Ce truc-là, il existe. Et en même temps, on s'en sert comme un ingrédient très, très raffiné, quoi. Donc on peut l'utiliser, mais aussi non. On se permet à des moments d'ouvrir le champ et de faire complètement autre chose, de donner la part à un son, un timbre, une voix, une dissonance. Et du coup, ça crée des effets d'espace pour moi. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est quelque chose. C'est une musique assez tendue finalement, parce que on cède pas à la facilité de l'allégresse permanente, ni au pathos, quoi. Et du coup, on circule comme ça dans quelque chose de très tendu et d'assez fin, qui est un endroit de l'émotion, quoi.
En fait, parfois, du coup, c'est même assez minimaliste ce que vous proposez. Ouais. Et puis, avec un vrai travail sur la répétition, etc. Est-ce que vous pourriez développer comment vous travaillez ça et puis pourquoi dans cette direction ?
L'idée de construire des morceaux de concert avec des processus de composition qui viennent d'autres endroits que des musiques de bal, ça, c'était un truc un peu partagé, j'ai l'impression. Et du coup, notamment, les musiques traditionnelles, elles contiennent en elles ce truc de répétition de motifs et d'air assez court, assez rapide. Du coup, je pense que c'est cet ingrédient-là de la répétition, le travail autour des motifs, il était un peu dans l'esprit de plusieurs personnes.
Et en tout cas dans l'esprit des musiques trad.
Et dans l'esprit des musiques trad, mais il y a des gens qui vont pas du tout dans cette direction-là. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément intrinsèque, quoi. Et en ce sens-là, évidemment, je pense que ça s'entend qu'on est, enfin, on est plusieurs en tout cas à être largement influencés par le travail du collectif La Nogue, qui est basé en Haute-Loire et qui bosse sur ces questions-là depuis une quinzaine d'années maintenant. Après, il y avait aussi plein d'autres influences. Mathilde, elle disait qu'elle venait pas à la base des musiques traditionnelles. Enfin, je vais pas parler à ta place, mais t'as notamment travaillé sur les musiques expérimentales et répétitives. Du coup, elle avait aussi ce bagage-là. Fort. Noélie, elle travaille aussi sur les musiques baroques. Du coup, elle a apporté des choses plus du côté de l'harmonie, des nappes, le côté minimaliste, je sais pas. Je crois que ça nous a tout un peu branché. De faire des contrastes, quoi, c'est ce dont parlait Anaëlle aussi, de pouvoir faire de l'infiniment petit et du très fort. Je crois qu'il y avait ce truc aussi de. On a envie qu'il y ait une amplitude de dynamique hyper, hyper grande.
Okay.
Il y a le truc de... oui, un peu des musiques contemporaines à la John Cage aussi, un peu ce truc-là de... dans le premier morceau notamment, enfin moi je pense pas mal à ça. On a des espèces de principes de composition qui se superposent, où genre Lisa et moi on est sur un motif très très long.
Une boucle
rythmique longue. Qui se répète et nous on dévie pas de ça, on est sur des rails et puis par-dessus il y a la couche des violons qui se superposent et qui font des dynamiques de pianissimo, fortissimo sur leurs motifs et par-dessus encore il y a Mathilde qui ajoute une espèce de tapis sonore, enfin voilà, on est un peu composé comme ça des fois par couche, par famille d'instruments, puis des fois ces familles elles s'échangent, il y a des moments où moi je suis avec Mathilde sur le fifre et les instruments avant. Thank you.
n'y a pas de... On n'a pas encore, je pense que ça pourrait évoluer dans ce sens-là, on n'a pas des marges d'improvisation très grandes. Je pense que maintenant que cette musique, on la joue beaucoup, on pourrait aussi arriver à un stade où on se donne plus de liberté. Mais les durées ne sont pas calées. Donc en fonction de l'écoute, on fait durer les choses plus ou moins, par exemple. Là où on a joué au Braillot hier, au Volcanique, et l'écoute était tellement précieuse, on était tellement bien dans le son qu'on pouvait aussi se permettre de... vraiment d'écouter les instruments précisément et de faire durer des trucs. Et ça, on le fait vivre voilà, à l'écoute, quoi, collectivement. Et l'album, finalement, on l'a un peu enregistré comme ça aussi.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on a enregistré tout ensemble dans la même pièce et avec pas beaucoup plus d'artifice que sur scène, quoi, que de l'écoute et quelques signaux. Et...
Vous faites le choix d'avoir 5 voix, mais alors ce qui est, enfin moi ce qui est trop surprenant et intéressant, c'est que c'est presque jamais ensemble, enfin rarement en tout cas. Et alors comment vous avez travaillé sur le fait que, notamment il y a eu un chant, je ne sais plus lequel, où vous passez la parole presque.
En fait, on s'est tout dit quand même au départ que, enfin il y a le timbre de chaque voix qui du coup quand il est seul. Il éclate d'une manière vraiment particulière et qu'on apprécie beaucoup. On n'avait pas du tout envie d'aller vers de la polyphonie ou vers parce que ça amène des contraintes de phrasé, ça apporte d'autres timbres, voilà, qui sont un travail très différent. Et là, par rapport à ces musiques-là, c'est ça qui nous émeuvait très fort. C'était des timbres solitaires et qui peuvent se croiser. Effectivement, dans le concert, il y a des moments où deux timbres se croisent et du coup, le fait que ce soit pas très souvent, ça aussi, ça apporte une intensité très très forte.
Difficile de se faire une place en tant que groupe de concert. Ça, c'est quelque chose qu'on savait avant de commencer. On s'est dit, ok, ça va pas être facile. On a envie de faire une musique qui nous plaît, mais on sait qu'elle va avoir du mal à trouver son espace, quoi. Et en plus de ça, on a fait une musique qui demande une écoute. Et je trouve qu'il s'épanouit vraiment dans des salles où il y a une attention. Et on coûte cher parce qu'on est nombreuses, tout de même. Voilà, du coup, c'est pas simple. Finalement, on arrive quand même à jouer. Mais on a assez peu joué dans le milieu trad. Mais sinon, finalement, on joue plutôt on est plutôt invité par des gens qui font du jazz, de la musique expérimentale. Aussi, on joue dans des scènes nationales, dans des SMAC, dans des endroits un peu plus institutionnels. Et parfois, il y a des programmations un peu étranges dans des événements festifs. Où du coup on a une place compliquée, je trouve, parce qu'on joue sous chapiteau à l'heure de l'apéro. C'est une musique qui a, voilà, je trouve que c'est quand même une musique qui a du mal à trouver sa place. On trouve toujours un public qui avec lequel il se passe quelque chose, quoi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que le milieu de la danse est pas le milieu le plus ouvert finalement aux recherches qu'on porte et à faire de la place au concert et aussi à apprécier notre musique. J'ai l'impression qu'elle fait finalement plus écho à des recherches musicales qui sont portées par d'autres milieux que vraiment par les tradeux qui sont attachés à certaines ambiances, à la danse.
La Crue, c'est un collectif d'artistes musiciennes, principalement pour l'instant. Ça pour évoluer, mais c'est ça. Qui travaille donc quand même le cœur de ce qu'on fait. En tout cas, ce qui nous a réunis, c'est qu'on a toute une pratique des musiques traditionnelles au sens un peu large, et qu'on a toute cette volonté, cette envie de la confronter à d'autres processus de composition, d'autres univers musicaux qu'on partage, notamment ce dont on a parlé, quoi, musique baroque, répétitif, contemporaine, amplifiée, etc. Parce qu'on trouve qu'il y a des ponts intéressants à faire dans les processus de composition, dans les échanges sur les manières de faire de la musique, etc. Et puis que je crois qu'on partage toute cette vision qui est que les musiques traditionnelles sont des musiques vivantes et en mouvement, et que du coup, il y a pas de raison de pas les faire se rencontrer avec d'autres pratiques qui sont les nôtres, qui sont profondément les nôtres aussi. C'est-à-dire, je crois que c'est pas un truc artificiel de dire on va aller chercher quelque chose et puis on va les mélanger. Donc il y a cette volonté-là, ça c'est la partie artistique. En ça, il y a un lien avec le collectif La Nobe, parce qu'ils travaillent aussi sur ces rencontres-là. Au final, ce qui est chouette, c'est que ça produit pas du tout la même musique. Et c'est des gens individuellement qu'on connaît, donc bien sûr que c'est nos amis, etc. Après, il n'y a pas eu de... Enfin voilà, ça reste juste... une rencontre, enfin des gens qu'on connaît qui nous ont inspirés au même titre que d'autres collectifs comme le collectif Art Brut par exemple, dont on est proche aussi, duquel Noélie a fait partie, et Clémence aussi, parce que la Cru c'est les musiciennes de Bosque, et Clémence Cognier qui joue du violon aussi, qui joue dans Garenne, et aussi Eva Ablikan qui n'est pas là, mais qui travaille avec nous sur la partie production, administration. Donc on a monté ce collectif-là à l'issue de la création du concert de Bosque. C'est-à-dire qu'on nous a donné l'opportunité avec Bosque de travailler dans des très bonnes conditions de travail. C'est-à-dire qu'on a participé à un programme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un appel à résidence qui s'appelle le Garage Résidence, où en fait on a accès à 5 semaines d'accueil en résidence dans différents lieux en Nouvelle-Aquitaine. Il se trouve que c'était la région Nouvelle-Aquitaine. Payé, hébergé, nourri, enfin voilà, en fait on nous donne l'opportunité de faire notre travail dans des vraies bonnes conditions. À ce moment-là on n'était pas structuré, donc c'était vraiment le Graal, quoi. On s'est dit en fait on se connaît pas toutes, on sait pas vraiment la musique qu'on va faire, mais il y a des gens qui nous font confiance pour faire un concert de A à Z, donc on a fait ça. Et pendant qu'on le faisait, on a beaucoup parlé entre nous aussi de la chance qu'on avait d'avoir accès à ça, et puis je pense qu'on a toute une sensibilité politique aussi, qui fait qu'on sait que c'est pas rien d'avoir accès à des bonnes conditions de travail, et que en fait ça vaut le coup d'essayer d'avoir accès à ça. Et donc en discutant avec les uns et les autres, les unes et les autres, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de nous se structurer pour continuer dans le temps à avoir accès à ce confort et cette qualité de travail, parce qu'en fait là on dépendait d'un organisme extérieur et que ça allait avoir une fin, quoi. Et donc à l'issue de ça, pendant même Bosque, on a discuté de est-ce qu'on se structurerait pas nous en collectif pour continuer en fait à faire des créations, à travailler ensemble, etc., etc. Voilà. Et donc le collectif s'est monté comme ça autour de Bosque avec les deux duos. Aujourd'hui, il y a aussi un solo de Noélie dans le collectif. Et puis on va bientôt attaquer une nouvelle création en 2025. Avec toutes les membres du collectif cette fois. Et des compositrices associées. C'est l'idée de la création, c'est qu'on a commandé des compositions.
On a quand même aussi, en se regroupant pour travailler, on a quand même constaté en fait qu'il y avait quand même un nombre conséquent de musiciennes qui avaient très envie d'être pro, pour qui c'était très difficile en fait, parce que les boîtes de production ou les collectifs qui étaient alentour étaient très masculins et très surchargés aussi.
Ben, ça rejoint un peu ce qu'a dit Elisa tout à l'heure, mais c'est vrai que la création du collectif, c'était à la fois une envie artistique, comme on l'a dit précédemment, mais c'était aussi de pouvoir avoir une structure sur laquelle se reposer pour salarier correctement les musiciennes, notamment certaines personnes qui étaient dans des situations un peu précaires par rapport à la musique. Voilà, donc le collectif, ça a permis ça aussi parce qu'on a mis en commun toutes les ressources que chacune avait en termes de... en mutualisant à la fois les contacts, les outils administratifs et on a pu collecter un peu d'argent au fur et à mesure en faisant des concerts qui nous a permis d'employer quelqu'un, donc Eva, qui s'occupe de la partie administrative et qui donc nous décharge aussi de tout ce travail-là. La création du collectif, ça a permis quand même au bout d'un an d'assurer une intermittence pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Et ça a été quand même notre première victoire de se dire, en fait, on peut un peu souffler. Maintenant, la crue, ça permet au moins ça, de dire que les personnes qui veulent être intermittentes, c'est possible.
Voilà, c'était donc Bosque qu'on a eu grand plaisir à rencontrer cet été et dont vous pouvez retrouver la musique en CD et puis désormais c'est tout frais en vinyle.
Ah, c'est old school, ça c'est bien. C'est à moi.
Changement d'ambiance
et après la rive que vous avez pu entendre en début d'émission, on va vous proposer un autre groupe qui semble avoir un ou deux ans d'existence d'après ce que j'ai essayé d'évaluer, que nous avons pu apprécier aussi à la Boc d'Or 2024.
C'est un compte-rendu de nos vacances en même temps.
En quelque sorte, oui. Un groupe dont d'aucuns diront qu'il a le mérite de ne pas couper les cheveux en quatre, puisqu'il s'agit de Mammouth, un nom dont l'orthographe mêle habilement celle de Mammouth et de Moumouth. Bref, comme leurs collègues de Peldrut, Mammouth est un groupe dont nous dirons sans se tromper, jeu de mots.
Qu'il est un peu poilant.
J'ai dit qu'il est au poil. Excellent. Le groupe fait preuve de beaucoup d'humour dans sa présentation et sa mise en scène et il se présente comme, je cite, un quartet féminin pas encore fossilisé, laine folk au caractère bien trempé, composition originale aux arrangements pachydermiques. Voilà. Dans ce troupeau sans perruque mais au costume préhistorique, nous retrouvons à la flûte traversière Carmen Leroy, au violoncelle Marie Tissier, au Pandora, Zabumba et autres instruments percussifs, ça j'ai cherché, Vanessa Berthomé et à l'accordéon diatonique Jules Burguière. Je ne sais pas si le mammouth laineux était un animal particulièrement répandu dans les steppes asiatiques, mais il me semble bien reconnaître des consonances orientales, en tout cas au moins est-européennes, dans sa scottish que le groupe promeut sur sa chaîne YouTube. Allez voir la vidéo, on vous met la chaîne YouTube en lien. Ça donne une assez bonne ambiance de l'esthétique du groupe. Et donc c'est une scottish au nom évocateur. Dans l'écho du parquet, voici Mammouth avec le bien nommé Hirsute. Thank you.
Et c'était donc Mammouth, c'est ça ?
Oui, Mammouth.
Avec le titre Hirsute.
Voilà, Mammouth, M-A-M-O-U-T-E.
Eh oui, les apparences sont trompeuses. On se quitte maintenant en douceur avec Inika, qui est une artiste irlandaise qui ne faisait pas spécialement de musique trad, mais qui s'intéresse dans son dernier album intitulé Ignon, qui est sorti en 2022, au chant Sinnos. Alors c'est du gaélique, hein, si vous savez prononcer ça. Ça signifie de style ancien, les chants Sinnos. D'habitude, ils sont chantés a cappella. Il y a ici un instrumentarium, piano, clarinette, batterie, violoncelle, synthé, et des arrangements assez surprenants, parfois discrets et parfois assez jazz ou parfois même un peu répétitifs. Bref,
c'est un peu le thème de l'émission.
C'est ça.
Il y a comme un axe aujourd'hui.
Bon, il y a aussi une chanteuse gaélique. Alors, fermez les yeux, installez-vous confortablement, allongez-vous. Voilà Inika avec Lord Gregory.
Et à la prochaine.
Love and mine was Johnson. Do you remember Lord Gregory that night in Capoquin? We exchanged pocket handkerchiefs, and that against my will. Oh, yours was fine linen, love, and mine was coarse cloth. Oh, yours cost one guinea, love, and mine was but one groat. Do you remember, Lord Gregory, that night in your father's hall, you stole of all. So